Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir les inondations à la suite des pluies fréquentes enregistrées ces derniers temps? On en parle dans cette émission avec le professeur Serge Pingou. Il est hydrologue et géographe. Professeur Serge Pingou, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Nous avons également en ligne l'ingénieur Michel Ouyumbu, président de l'association des ingénieurs BTP en République démocratique du Congo. Ingénieur Michel Ouyumbu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Il s'agit de la Corporation nationale des ingénieurs BTP.
D'accord, merci. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien qui s'intéresse aux inondations qu'on enregistre ces derniers temps. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Jean-Claude Tiala, à la mise en onde, Tati Mapoukou réalise cette émission que coordonne Marcène Goumboumbalakeba. Jody Daniel, Kachama au micro, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
L'émission Dialogue entre Congolais accorde la parole aux auditeurs de Bounia Litouri à partir de la semaine prochaine.
Retrouvez toute l'équipe de DER dans la salle de conférence de la MONUSCO Bounia pour une série d'émissions spéciales grand public.
Au menu,
la paix,
la sécurité,
l'économie,
le social
et la politique de la province de Litouri.
Dialogue entre Congolais à Bounia pour mieux servir les auditeurs de la fréquence de la paix.
Bien. Des fortes pluies sont enregistrées ces derniers temps à Kinshasa ainsi que dans d'autres villes du pays. Ces pluies successives et abondantes finissent par causer des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. C'est le cas par exemple à Banzangungu dans la province du Congo central, où près de 18 personnes, parmi lesquelles des enfants, ont perdu la vie depuis le mardi dernier à cause des inondations. D'après les spécialistes, des fortes précipitations sont souvent enregistrées pendant cette période, entre octobre et décembre. Alors la question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir des inondations avec les dégâts tels qu'enregistrés dans le Congo central. Il n'y a pas que dans le Congo central, il y a également à Niouzou, il y a eu également des cas similaires, des fortes pluies sont enregistrées un peu partout. Alors, vous avez des questions, des préoccupations, des témoignages. Dites-nous comment ça se passe dans votre province, là où dans votre région, là où vous êtes. Est-ce qu'il y a des fortes pluies, des inondations qui sont enregistrées avec des dégâts matériels, des pertes en vies humaines ou pas? Appelez déjà, le standard est ouvert, composez le 081-890-63-94. Professeur Serge Pingou, vous êtes géographe et hydrologue. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui est à la base de ces fréquentes et abondantes précipitations qu'on enregistre ces derniers temps?
Oui, ceci est tout à fait naturel. Parce que vous avez vu que d'abord, la saison de pluie a commencé très tard et puis que vous savez que depuis bonne lurette maintenant déjà, vous vous êtes habitué je crois, qu'on parle des changements climatiques. Alors ces changements c'est quoi? C'est que la quantité de pluie comme telle n'a pas changé, mais c'est plutôt le temps de pleuvoir qui a changé. C'est-à-dire que souvent, les précipitations, au lieu de s'étaler sur toute la durée de la saison des pluies, maintenant, on assiste à un nouveau phénomène, c'est qu'il pleut abondamment, mais pendant une très courte durée. Et cela est à mon avis, la cause principale de l'abondance d'eau dans le réseau hydrographique, et c'est ce qui fait qu'il y ait inondation, ça et là.
Oui. À Kinshasa, par exemple, à un certain moment, on avait l'impression qu'il pleuvait, que la pluie tombe chaque jour.
Oui, mais vous voyez, justement, c'est que c'est inhabituel. Mais déjà, de manière naturelle, c'est que maintenant, nous sommes en été austral. C'est-à-dire que nous autres, comme au nord, ils sont en hiver. Nous, nous sommes en été, donc c'est le moment où il fait très chaud et l'évaporation est très forte et donc il pleut fortement beaucoup. Le problème, c'est que maintenant là, comme il y a eu ce dérèglement climatique, le rythme n'est plus le même et donc il se fait que il pleut de plus en plus et que maintenant, il est difficile vraiment de prévoir ce qui va advenir. Donc, c'est naturel d'abord, ça il faut le dire. Et deuxièmement, il y a cette influence du dérèglement climatique qui fait que les pluies sont concentrées sur une très courte durée et ont donc des intensités très grandes et donc produisent beaucoup d'eau dès qu'il se déclenche. Donc, pour, je ne sais pas, mais naturellement, on ne peut rien faire. Mais à Kinshasa, il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est que, à cause de ça, on n'a pas pris les précautions nécessaires pour essayer de prévoir justement le drainage de ces grandes quantités d'eau. Ainsi, souvent, les rues, les évacuateurs d'eau de ruissellement sont débordés et finissent par s'étaler sur la cité. Voilà un peu à ce niveau ce que je peux vous dire.
Bien. Ingénieur Michel Ouyumbu, vous êtes le président de la Corporation des ingénieurs BTP de la RDC. Maintenant, on se retrouve avec une forte quantité d'eau. On craint, il y a déjà des inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les dégâts? Parce que on a l'impression que les ouvrages qui existent ne peuvent pas bien gérer la quantité d'eau qui est qu'on reçoit des fortes pluies qui s'abattent ces derniers temps dans nos villes.
Merci beaucoup, M. Jody. Merci encore une fois de plus de nous associer à ce débat combien utile pour nos populations. Et il est évident, comme l'a dit le professeur, que nous avons un phénomène naturel qui s'est accentué avec le dérèglement climatique dû au changement climatique et que nous avons des pluies beaucoup plus abondantes et que nous avons des intensités pluviales beaucoup plus élevées. Ça, c'est tout à fait correct. Mais d'autre part, vous allez constater que nous avons complètement croisé les bras, parce que sous d'autres cieux, les gens sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour évidemment s'adapter à ces dérèglements climatiques. Et même les ouvrages d'assainissement, les ouvrages d'évacuation des eaux, des drainages des eaux, qui ont été dimensionnés avec des données pluviométriques beaucoup plus acceptables, devaient évidemment aujourd'hui être redimensionnés. Et en tenant compte de ces changements climatiques. Malheureusement, le problème dans notre pays se pose à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux, le niveau 1 consiste au fait que notre politique chaotique en matière d'aménagement urbain pose des problèmes. Et deuxièmement, nous avons des cités qui ne disposent pas d'un réseau d'assainissement. Il y a quelques quartiers de nos villes, par exemple, qui disposent des réseaux d'assainissement, pas l'ensemble de nos villes, et que malheureusement, encore troisième élément, les quelques réseaux qui sont existants ne sont plus à mesure de s'adapter aux phénomènes que nous observons actuellement. Voilà, l'ensemble de tout ça, c'est une très bonne recette pour que nous ayons tous les désordres que nous sommes en train d'observer, ça et là.
Voilà. Alors maintenant, avec ces inondations, on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Peut-être que les pluies vont encore continuer jusque fin décembre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là pour éviter les dégâts, les dégâts matériels et les pertes en vies humaines, comme c'est le cas actuellement en Banzangungu?
Mais il faut remettre d'abord l'outil que nous avions, de manière à ce que nous puissions savoir contrôler ces inondations-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un établissement public qu'on appelle Régie de voies fluviales, qui évidemment disposait à l'époque dans plusieurs cours d'eau des échelles millimétriques pour essayer de contrôler la montée des niveaux des eaux. Malheureusement, ce service est presque complètement abandonné. Il ne dispose même pas des moyens pour essayer de contrôler la montée des eaux, ce qui est déjà un premier problème. Et un deuxième problème, nous devons pouvoir recueillir les données actuelles avec les données pluviales actuelles pour essayer de redimensionner les ouvrages d'assainissement qui a été dimensionné sur base des anciennes données. Malheureusement, nous n'avons peut-être pas une politique publique dans cette matière-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Donc, nous ne savons pas nous adapter non plus. Nous n'avons pas mis de politique pour essayer de contrôler les inondations. Aujourd'hui, il y a des outils puissants où on peut contrôler ce phénomène d'inondation, ce qui permet de dire qu'avec les outils actuels que nous avons, il y a moyen de prévenir tout ça. Mais il faut qu'il y ait des politiques cohérentes, comme je suis en train d'insister. J'insiste sur les politiques cohérentes, parce qu'à partir du moment où nous n'avons pas défini des politiques cohérentes, nous n'aboutirons jamais aux résultats satisfaisants. Donc il y a d'abord un problème de politique, et bien un problème de volonté, et un problème des outils, parce qu'aujourd'hui, on peut faire une modélisation des rivières compte tenu des données pluviales actuelles, et aboutir à des conclusions beaucoup plus évidentes.
Bien. Professeur Serge Pang, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour contrôler la montée des eaux et peut-être donner l'alerte aux populations riveraines qui habitent les longs des rivières et autres afin d'évacuer peut-être et d'éviter qu'on enregistre encore des pertes en vies humaines? Professeur Serge Pang.
Oui, Jordi. Comme je le disais tout à l'heure, donc, il s'agit d'un... d'un dada de tous les jours. C'est-à-dire que je vous dis que les hydrologues, tous les jours, quand ils cherchent les données pluviométriques et les jauges, les rivières, c'est justement pour prévoir ce genre d'événements. Et heureusement pour nous, je vais un petit bémol à ce que l'ingénieur a dit est tout à fait pertinent. Mais il faut savoir que non, nous ne sommes pas restés là, comme il l'a dit, non. Et aujourd'hui, la Banque mondiale a implémenté un projet hydromètre à Metelsat. Nous en avons parlé l'autre fois. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'à Kinshasa, un début de solution dans le bassin de l'Antilly est en phase d'être monté. C'est-à-dire qu'on va mettre des outils d'observation partout dans le bassin de l'Antilly, et la Metelsat va collecter des données en temps réel et des modèles justement seront implémentés pour essayer de prévoir les inondations, comme disait l'ingénieur. Mais vous voyez que ces simulations, comme il disait, ne peuvent pas se faire avec des données ponctuelles. Il faut un certain temps d'observation d'abord. On a pris du retard. On a détruit d'abord tous les réseaux qui existaient à l'époque coloniale. Maintenant, timidement, comme je disais, le projet Hydromètre remet du matériel dans le bassin de l'Angélie, mais ça ne suffit pas parce que il n'y a pas que l'Angélie à Kinshasa. Il y a aussi le Kunga, il y a Tchangou, il y a Matete. Alors il faut mettre partout là, il faut mettre des
pluviomètres.
De plusieurs mètres, je ne suis pas de pluviographe, juste pour essayer de collecter les données en temps réel et faire des simulations des écoulements qui peuvent en découler. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas sortis de l'auberge parce que l'implantation de ces équipements peut se faire peut-être d'ici la fin de l'année pour le bassin de l'Angélie, mais ça prendra du temps pour.
Alors, professeur Serge Fangou, quel est le oui. niveau des eaux actuellement au niveau du fleuve Congo?
Oh, mais aujourd'hui, là, je ne sais pas. Vous ferez mieux de vous adresser à M. Mokango, n'est-ce pas? Sûrement, Papa Bilo est passé par l'échelle. Moi, je suis là dans une conférence. D'ailleurs, vous me prenez à pied levé. Aujourd'hui, je n'ai pas fait le tour de l'échelle là-bas, donc je ne suis pas au courant pour l'instant. Mais oui. je suis sûr que ça doit être très haut, quand même. Ça doit être très haut. Je viens de Kisangani, où j'ai vu que l'eau est vraiment très haut.
Bien, on va accueillir John Odian qui est à Isiro. John, bonjour.
Bonjour, cher. Je dis bonjour à l'invité.
Quelle est la situation là-bas à Isiro? Est-ce qu'il pleut beaucoup ces derniers temps?
Bon, le problème des inondations, comme vous le dites, c'est partout en RDC. Parce qu'il pleuvait abondamment, mais c'est toujours ici, ça ne pleut plus. Alors, le problème des inondations, c'est très compliqué parce qu'il faut que le gouvernement puisse quand même définir, doter le service d'hygiène et assainissement avec des moyens, avec des matériels pour finir une fois pour toutes avec le problème des inondations. Le problème qui se pose là-bas, c'est le problème de l'organisation. Vous voyez qu'il faut que le service d'hygiène et assainissement puisse s'associer avec l'urbanisme et habitat à faire conscience pour définir la vraie politique et comment on peut placer la maison, comment on peut assainir les milliers, tout ça, il faut que le gouvernement puisse emboîter les pas pour sauver la situation. La situation générale, les problèmes des inondations ici, c'est qu'en vous partout, vous voyez qu'il y a des maisons, il y a des gens qui distribuent des maisons comme ça, qui distribuent des maisons comme ça, sans tenir compte que non, ici, il y a des zones marquageuses, avec ça, il faut quand même qu'on puisse quand même voir la situation, parce que c'est général, ce n'est pas seulement une chasse. C'est général.
Voilà, c'est général, même à Isiro et un peu partout à travers le pays. On enregistre ces genres de situations. Appelez-nous, vous avez des témoignages. Composez le 081-890-63-94 pour nous dire comment ça se passe chez vous, dans votre province. Est-ce qu'il y a des inondations ou pas? Alors, ingénieur Michel Ouyumbu, vous avez suivi l'auditeur, professeur Serge Pangou, ainsi que notre auditeur qui nous a appelé depuis Isiro. Alors, vous avez dit également tout à l'heure qu'il faut redimensionner les ouvrages d'assainissement. Bon, c'est peut-être une solution à long terme, mais à court terme, et qu'est-ce qu'il faut faire, ingénieur Michel?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Je suis d'accord avec le professeur Serge, qui a parlé qu'ils ne sont pas restés les bras croisés, je pense qu'au niveau de Metelsat. Mais c'est dommage que pour installer des échelles lignométriques sur l'ensemble, sur par exemple le bassin de l'Angélique, qu'on fasse toujours recours à la Banque mondiale, ce qui est bien dommage. Alors que nous avons un réseau hydrographique très dense, je me pose la question aujourd'hui, quel est, sur l'ensemble du réseau hydrographique que nous avons, mais quelle est la partie du réseau où ça représente. Le bassin de l'Angélique représente quoi, malheureusement, par rapport à l'ensemble du réseau hydrographique que nous avons? Est-ce que l'ensemble du réseau hydrographique que nous avons est couvert par une observation régulière? Ça, je doute fort. Peut-être le fleuve Congo, peut-être quelques-uns des affluents du fleuve Congo sont couverts par cette observation hydrologique. Malheureusement, beaucoup de nos rivières ne sont pas concernées par ce projet-là. Je pense que le bassin, je crois qu'il y a aussi l'Ubangi qui doit être couvert par un réseau d'échelle limétrique, ainsi de suite. Mais ce n'est pas suffisant parce que nous avons un réseau très dense. Ça, c'est de un. De deux, et aujourd'hui, le professeur l'a bien dit, nous sommes largement en retard en ce qui concerne les observations en matière hydrologique. Nous n'avons vraiment pas. Et si vous remontez à l'époque coloniale, vous allez voir que l'observation qui se faisait dans notre réseau était beaucoup plus accentuée à cette époque-là qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous avons abandonné tout ce qui est observation, où nous ne faisons peut-être que les 2% ou 5% des observations sur les réseaux que nous avons. Ça, c'est un premier problème. De deux, si vous êtes sur la rivière Ngili, par exemple, vous allez vous rendre compte que la digue qui avait été érigée à l'époque pour protéger la population des inondations, la digue n'existe plus.
Oui.
Il y a des endroits où la digue a été complètement, complètement détruite.
Oui, Michel Oyumbu, quelle est la solution à court terme? Maintenant, il y a des gens qui meurent, il y a des dégâts matériels importants, à Mbanzangungu par exemple. Quelle est la solution à court terme rapidement? Il faut redimensionner les ouvrages, mais ça prendra du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat?
Dans l'immédiat, il faut... Parce que, mais si je dis le problème des inondations, c'est un problème très, très, très grave et très sérieux pour qu'on trouve facilement comme ça des solutions. Aujourd'hui, il y a des zones où les zones inondables que les gens ont investi en complicité avec les autorités de l'administration foncière. Mais il va falloir que ces zones-là soient délimitées. Or, pour délimiter ces zones, il faut avoir des données d'observation et prévoir que ces zones-là soient inondables pour demander à ce que cette population puisse vider les lieux. Donc, dans tout état de cause, on peut dans un premier temps essayer de délimiter certaines zones qui se trouverait sur les lits de rivière pour demander obligatoirement l'évacuation des populations qui habitent ces zones inondables. Ça, on peut le faire très rapidement. Mais peut-être qu'on ne le fera pas avec beaucoup plus d'efficacité, parce que pour que ça soit efficace, il faut qu'on ait beaucoup de données, qu'on ait beaucoup d'observations, comme le faut dit, et qu'on fasse beaucoup de modélisations pour voir comment bien pourrait se comporter cette rivière en cas de crues exceptionnelles, par exemple. Et si on essaie de délimiter ces zones-là, la deuxième des choses serait évidemment d'essayer de protéger certaines zones inondables par des digues de construction qui vont permettre à retenir les eaux pour que ces zones-là soient, pour que ces zones-là ne soient pas inondées. Voilà.
Bien, on va accueillir un auditeur. Il s'agit de Joseph Kibongé. Il nous appelle de Kisangani. Bonjour, Joseph.
Bonjour, monsieur.
Bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inondations enregistrées ces derniers temps?
Bon, premièrement, chez nous à Kisangani, il y a des caniveaux qui ne sont pas dans de bonnes conditions. La population qui jette les ordures dans des caniveaux et qui crée des débordements des eaux à travers les maisons des gens quand il y a la pluie. Et il y a aussi les gens qui construisent des maisons du fleuve près de rivières, et quand il y a pluie, et maintenant à ce moment la population se plaint à propos de l'inondation. Or il faut savoir pour construire une maison, il faut analyser, il faut qu'il y ait les gens de l'urbanisation ou de l'assainissement, de voir comment le milieu où on peut construire, où on peut créer des caniveaux qui peuvent barricader au niveau des rivières pour ne pas essayer le débordement des eaux.
Merci John Joseph Kibongé depuis Kisangani. Nous parlons aujourd'hui de comment prévenir les inondations. On a enregistré ces derniers temps des fortes pluies à Kinshasa, Mbanzangungu, à Nyunzu ainsi que dans d'autres parties du pays. Appelez-nous pour nous dire comment ça se passe là-bas. Professeur Serge Pangou, alors qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? On a suivi tout à l'heure qu'il faut peut-être délocaliser toutes ces personnes qui habitent dans des zones inondables.
Bien, bon, aujourd'hui, bon, tout ça, c'est bien bon. Délocaliser, c'était la situation, disons, la solution idéale. Mais il est facile de délocaliser les gens pour les loger où? On n'a pas prévu de solution de réchange, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, donc nous sommes là pris à contre-pied, il faut l'avouer. C'est-à-dire que depuis que le nombre de personnes disent, racontent, ont écrit tout ça, mais bon, l'autorité n'a pas voulu prendre la chose au sérieux. Mais maintenant qu'on est débordé, mais la première solution, la plus rapide, d'abord en ville, il faille
procéder d'abord par les curages des caniveaux et des rivières. Ça, c'est la première solution, la plus, en tout cas, à mon avis, la plus facile à faire. Les deux, enlever les immondices et les amener très loin du réseau hydrographique. Parce que, vous voyez vous-même, quand on vide les caniveaux, on laisse le
sable traîner à côté là-bas,
De à côté, et quand il pleut, ça rentre dans le réseau, et les cours d'eau et les caniveaux sont bouchés, et donc, cela amplifie au fait les inondations. Moi-même, j'avais déjà fait un modèle dans le bassin de la Louboudi, c'est comme vous appelez Makelele, lorsqu'il faisait mon DA, j'ai publié un modèle que j'ai appelé un modèle qui mettait justement ensemble l'enlèvement des immondices et l'érosion des versants et tout ce que ça donnait comme... et nous avons appelé cet effet « effet des barrages ». C'est ce qui crée le plus d'inondations dans les villes congolaises. Notre ami de Kisangani vient de le dire. Mais pour l'instant, urgemment, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas deux, quatre solutions. Il y a d'abord un... Ça peut se faire. Curer les caniveaux, curer les cours d'eau et enlever régulièrement les immondices et les amener à des dépotoirs qui soient dignes de ce nom. Pas les entreposer quelque part pour qu'ils se dispersent encore dans le réseau hydrographique. Pour l'instant, c'est cela.
Oui.
Mais là où il y a vraiment flagrance, on n'a pas le choix. Si vous allez à Dingui maintenant, vous allez voir que tous les quartiers appuient. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Il faut, parce que c'est un sinistre. Hein. Donc, il faut trouver des solutions humanitaires pour d'abord éloigner ces populations des dangers. Il n'y a pas de mesure.
Actuellement, les gens qui habitent les zones inondables ne ferment plus l'œil la nuit dès qu'ils voient le ciel noircir.
Parce que vous savez qu'à tout ça, d'habitude, surtout à Kinshasa, il pleut souvent la nuit. Ça s'est prouvé. Donc, et quand vous dormez, l'eau vous surprend. Non, ils ne dorment plus, c'est fini. Et puis, est-ce qu'ils ont encore des meubles? Ils ne savent même pas où dormir. Et ils ne peuvent même pas manger parce qu'il y a des maisons. Si vous allez à Ndanou là-bas, vous allez voir que les gens sont sur leur table, leur salle à manger.
Il y a d'autres qui mettent les valises, tout ça, au niveau des plafonds, sur le toit, oui. Sinon vous allez tout perdre.
C'est ça exactement. Et je vous dis que cela dure depuis longtemps, malheureusement. Comme je disais, des études ont été faites, des solutions ont été trouvées, mais bon, apparemment, l'autorité municipale ne prête pas oreille. Et maintenant... il sera question, déjà vous avez vu ici, en 2018, le 5 janvier, vous aviez vu ce qui s'est passé. Quand vous suivez le plan post-need assessment, donc après catastrophe que la Banque mondiale avait organisée, vous voyez que les dégâts se chiffraient au niveau de 800 millions de dollars. Vous voyez que c'est une grosse perte. Les inondations ne blaguent pas. Ils peuvent vous remettre la vie à zéro. Vous pouvez être un grand propriétaire, puis vous retrouver à zéro,
vous perdez tout en un instant.
Tout, et en un instant et en un clin d'œil.
Bien.
Les catastrophes naturelles, on ne joue pas avec.
D'accord.
Là aussi, l'autre solution, c'est lutter aussi contre les érosions. Parce que les érosions, elles aussi contribuent à remplir les caniveaux.
Bien, professeur Serge Pangou, géographe et hydrologue, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation et excellente journée.
Merci Jordi.
Bien, nous allons accueillir Maître Edmond Bokolo de Mbandaka. Maître, bonjour.
Bonjour Maître Jordi, bonjour à l'invité également, à tous les auditeurs de la radio.
Bienvenue Maître, à Mbandaka, je suppose qu'il pleut tous les jours ces derniers temps.
Voilà, donc chez nous ici, nous avons, c'est plus que la saison des pluies qui domine, donc il y a des pluies presque tous les jours. La question liée à l'inondation, donc c'est une question vraiment quotidienne. Parce que, on a vu, Mbandaka est une ville, bien sûr, urbanisée, C'est une urbanisation qui date de longtemps et actuellement, parce que nous avons aussi de nouveaux quartiers qui sont créés. Malheureusement, les nouveaux quartiers ne sont pas urbanisés et ça crée un problème. Et ici, au niveau de la ville, au niveau de la province, voilà, et la politique, même au niveau urbain ou au niveau de nos différentes communes, il n'y a pas une politique pour lutter contre les inondations. Parce que vous allez voir même, il y a certaines personnes qui construisent les maisons dans le lit de cours d'eau, ou là où l'eau doit être canalisée vers le fleuve. Voyez, ça crée un sérieux problème. Mmh. Voilà pourquoi, pour pallier à cette situation, moi j'aurais proposé d'abord pour le ministère de l'urbanisme, de pouvoir urbaniser, en fait, de pouvoir créer des canifs partout. Et également, le ministère des Affaires foncières doit tirer les conservateurs de sites immobiliers aux oreilles et ne pas vendre en particulier le lit d'eau ou là où l'eau doit être canalisée pour se jeter dans les fleuves ou dans un affluent. Voilà. Donc, c'est là. Nous allons essayer de lutter contre les inondations, mais nous devons avoir des caniveaux, ou renouveler les anciens caniveaux laissés par les Blancs à l'époque.
Les redimensionner, comme l'ingénieur Ouyumbu l'a dit tout à l'heure. Merci, Maître Edmond. Ingénieur Michel Ouyumbu, vous avez la parole.
Merci, une fois de plus, Monsieur Jody. Il est évident que les inondations représentent quand même un des principaux risques naturels les plus graves, les plus importants, et qui cause évidemment, c'est une catastrophe naturelle causant le plus grand des dégâts en ce qui concerne les catastrophes naturelles. Mais il y a moyen de prévenir, mais pour prévenir les inondations, il y a toute une batterie de mesures que l'on doit prendre. Toute une batterie de mesures qui doivent être définies, toute une batterie de mesures qui doivent être appliquées. Tantôt, le professeur Serge a parlé de l'information préventive. Ça, c'est au niveau de contrôle même de la montée des eaux. En ce qui concerne le contrôle de la montée des eaux, mais nous n'avons pas le contrôle de l'ensemble de notre réseau hydrographique pour savoir que à telle période ou à tel moment exactement, nous aurons des inondations à tel endroit. Donc, nous sommes défaillants déjà au niveau de ce qu'on appelle l'information préventive. Et l'action doit être mis exactement sur cet outil. Parce que cet outil d'information préventive, c'est avec ce genre d'outil que partout dans le monde, on peut déclarer l'alerte pour demander à la population de vider les lieux. Malheureusement, en matière d'information préventive, nous ne faisons pas grand-chose. Le deuxième élément sur lequel je tiens à beaucoup insister, c'est la politique globale d'aménagement. Vous avez suivi tantôt le prof à parler des érosions. Mais ce sont des effets cumulatifs. Il suffit qu'il y ait érosion quelque part, ce débordement de sol, de terre, va aller directement vers les rivières, va complètement réduire la section même de la rivière, et va réduire la capacité hydraulique de la rivière, c'est-à-dire la capacité de cette rivière à évacuer les eaux, pas seulement des rivières, mais ça peut aller jusqu'au niveau même du réseau d'assainissement. Donc, ce sont des problèmes qui sont totalement liés, les défis urbains, que les mesures doivent être prises d'une manière globale.
Bien. Nous allons accueillir Jean Mangalibi. Il est coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature. Jean Mangalibi, bonjour.
Bonjour, camarade.
Bien, bienvenue dans cette émission. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'accueillir un auditeur de Beni, Ntamboué Kasongo. Ntamboué, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bienvenue dans cette émission. Qu'est-ce que vous nous avez à nous dire par rapport aux inondations, par rapport à la prévention des inondations?
Oui, merci beaucoup pour la parole nous accorder, monsieur le journaliste. Les inondations n'aiment pas toujours les problèmes de Kisangani ainsi que de Bazangu, tel que vous l'avez évoqué, parce que ici dernièrement, il y avait aussi les inondations au niveau du site Kivu à Uvira, qui a fait au moins plusieurs personnes qui sont mortes. Maintenant, j'aimerais à ce que le gouvernement puisse toujours prendre en charge et puisse prendre ses responsabilités à travers à travers ce service de cadastre pourvu que le cadastre puisse respecter le plan de leur plan de lotissement.
Oui.
Parce que ici à Béni, nous voyons les gars de cadastre arrivent même à vendre les avenues. Et cela est très grave pour un pays qui se respecte. C'est très grave.
Mais
que
l'État
puisse appliquer bien la loi. Parce que on ne sait pas pourquoi l'État n'arrive pas à bien appliquer la loi à cette matière. Deuxièmement, il faut qu'on puisse faire les salons obligatoires pour permettre à ce que les gens puissent canaliser les terrasses pour que les eaux puissent passer convenablement.
Mmh.
Parce que pendant la Deuxième République, les salons étaient obligatoires et la République démocratique du Congo était propre. Et tout cela, je ne sais pas si c'était parce que on n'était pas à cette époque-là.
Bon, actuellement, par exemple, à Kinshasa, les salons gros, c'est les chaque samedi, jusqu'à 10h, les magasins restent fermés et on fait les salons gros. Merci d'avoir appelé Jean Mangalibi. J'ai dit tout à l'heure que vous êtes coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature. On assiste ces derniers temps à des inondations, il pleut beaucoup et il semble que jusqu'à fin décembre, on aura toujours des pluies abondantes. Il y a eu des dégâts enregistrés dernièrement en Banzangungu, il y a eu des pertes en vies humaines. Et notre ami nous a rappelé aussi qu'à Uvira, il y a eu aussi dernièrement des inondations qui ont tué beaucoup de personnes. Alors d'après vous, Jean Mangalibi, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat pour prévenir d'autres inondations?
Bon, il y a le premier élément, il y a d'abord l'homme politique. Parce que la politique est l'art de gérer la cité. Et au niveau national, c'est l'art de gérer un pays. On va se rendre compte d'une chose. Par rapport au point de vue international, il y a déjà l'info qui a circulé qui, avec la fonte des glaces, il y aura une montée des eaux. Au niveau, maintenant, par rapport à la gestion à notre pays, le problème se situe sur la manière dont les choses sont en train d'évoluer. On va se rendre compte d'une chose. Je vais d'abord par rapport aux anciens quartiers urbanisés, où il y avait déjà de bonnes constructions. On va se rendre compte que dans les temps, quand les Belges ont construit, ils respectaient les normes. D'ailleurs, dans les principes, les normes de 40-60. 40% maison, 60% l'espace pour pouvoir absorber une partie de l'eau et l'autre partie va ruisseler vers les caniveaux. Mais on va se rendre compte que quand je prends, par exemple, la commune de Kalamu, je prends la commune de Matete, je prends la commune de Kitambo, je prends la commune de Bandal, vous allez vous rendre compte que c'est ne plus respecté. Et que aujourd'hui, la maison où les béton occupent, c'est les 99% de l'espace. Conséquence, il y a d'abord le volume d'eau.
Qui augmente dans les parcelles.
Voilà, dans les parcelles. Mmh. Maintenant, c'est le volume d'eau qui devait sortir à l'extérieur. On va se rendre compte que quand, dans le temps, les constructions ont été faites, ils ont respecté les dimensions par rapport au caniveau. Mais aujourd'hui, on va se rendre compte que, comme la maison est remplie, le volume d'eau a augmenté.
Et il semble qu'il y a des parcelles où il n'y a même pas de gouttières pour canaliser les eaux de pluie.
Il peut avoir une gouttière, mais l'eau doit aller quelque part. Il doit sortir. Quand il sort en dehors de la maison, c'est là où il y a les problèmes. De deux, je vais par rapport aux rivières. Vous allez voir, dans l'état, normalement, entre les rivières et les maisons d'habitation, il y avait, si pas 15, il y avait au moins une trentaine de mètres. Aujourd'hui, on a rempli avec les déchets des ménages et les gens ont construit dessus. Il s'est fait que maintenant, les rivières qui avaient plus de 2 mètres, aujourd'hui, sont restées avec 50, entre 1 mètre et 50 centimètres.
Il y a même des gens qui ont construit sur les lits des rivières.
Voilà. Mm. Quand on voit, je prends le cas, parfois, c'est que tu viens de dire, quand je prends le cas ici, quand tu vas derrière le camp Kabila, tu vas voir que la rivière est en train carrément de disparaître.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans l'immédiat? Il y a un problème des inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire, Jean-Mandel?
Dans l'immédiat, normalement, l'autorité doit arriver à prendre ses responsabilités. Parce qu'on se rend compte que jusqu'aujourd'hui, au niveau du ministère de l'urbanisme, il y a, je dirais, c'est rempli des inconscients qui voient les dangers là, mais qui n'est pas leur problème. Aujourd'hui, une cité telle que la cité du fleuve, quand vous prenez contact avec le professeur Kabasele, dans l'état, je connais, il a fait beaucoup d'émissions avec lui. Ils ont démontré que si on accorde la construction de la cité du fleuve, il va y avoir des inondations qui va même arriver jusqu'au niveau de l'aérodrome d'Indolo. Malgré cela, on voit qu'on continue à construire la cité du fleuve. Ce qui n'est pas pour des gens à qui on a prévenu du danger, qui laissent les choses évoluer. Ça, c'est plus la population. Parce qu'aujourd'hui, si l'autorité est là pour gérer, il doit prendre des décisions qu'il faut pour le bien-être de tous.
Jean Mangalibi, un instant, on va accueillir un auditeur, Sonny Médard de Kananga. Bonjour. Sonny Médard, bonjour.
Votre correspondant est en communication.
Voilà, Sonny Médard est en communication. Je reviens à vous, ingénieur Michel Oyumbu. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous avez suivi Jean Mangalibi a déploré. Les gens ont construit sur les lits des rivières. Au niveau des parcelles, les gens ont construit en béton. Il n'y a pas de gouttières. On ne sait pas canaliser les eaux au niveau des parcelles. Qu'est-ce qu'il faut faire, Michel Oyumbu?
Mais tout cela, je dis, entre dans le cadre des politiques publiques en matière de l'aménagement. Parce qu'en matière d'aménagement, c'est pas parce que vous avez acheté une parcelle de 20 par 20 que vous avez le droit de construire sur les 400 mètres carrés. Sous d'autres cieux, ça s'appelle le plan d'occupation du sol. Il faut qu'il y ait un POS, plan d'occupation du sol, de manière à ce que vous puissiez, en tant que propriétaire, savoir que sur les 400 mètres carrés que vous avez, vous ne pouvez pas construire au-delà de 200 mètres carrés, par exemple. Ça, c'est un exemple que je donne. Mmh. Ça veut dire que vous occupez, par exemple, 50% de votre parcelle, et les 50 autres pourcents, ça sera soit réservé au jardin, soit réservé à d'autres aménagements, de manière à ce que l'eau de pluie qui pourra tomber dans votre parcelle puisse s'infiltrer localement. Une partie s'infiltre dans cette parcelle-là. Mais quand vous avez construit sur les 400 mètres carrés, que vous avez posé une toiture au-dessus, que vous mettez des gouttières, alors vous aurez un volume d'eau plus important à évacuer sur les ouvrages d'assainissement, même s'il y en avait. Donc, ce sont des choses qui doivent se faire correctement. On doit contrôler l'occupation du sol. Quand bien même vous êtes un propriétaire terrien, mais l'occupation du sol doit se faire de manière contrôlée. Aujourd'hui, nous avons des sacs en plastique partout dans la ville. Mais ces sacs en plastique-là favorisent l'inondation. Parce que les sacs en plastique sont en train d'arrêter l'infiltration des eaux. L'eau ne peut pas s'infiltrer là où il y a des sacs en plastique. Mais nous en avons des tonnes et des tonnes dans la ville. Donc, vous voyez, c'est une politique globale. Ce n'est pas une politique singulière, c'est une politique globale qui met en jeu beaucoup d'interventions, beaucoup d'actions. Une autre action, Jean-Mangalibi a parlé tantôt de la cité du fleuve. Mais ça, c'est encore une autre catastrophe. Vous savez, la cité du fleuve est construite sur ce qu'on appelle les zones humides, qui constituent un lit secondaire du fleuve en cas d'inondation. Mais maintenant, là, on a rétréci le lit du fleuve pour y construire des maisons. Vous avez suivi tantôt, il y a quelques mois, toute cette cité était complètement inondée. Donc, ces politiques globales nous manquent, monsieur Jody. Nous ne pouvons pas faire des choses sans que nous puissions définir des politiques globales, sans que nous puissions définir des plans d'action, sans que nous puissions définir des feuilles de route.
D'accord.
Nous ne pouvons pas courir après les événements.
Merci beaucoup.
Ce que nous sommes habitués à faire dans ce pays, c'est courir après les événements.
Et pourtant, il faut gérer, c'est prévoir. Merci d'avoir participé à cette émission, ingénieur Michel Oyumbu. Je rappelle que vous êtes le président de la Corporation des ingénieurs BTP de la République démocratique du Congo. Excellente journée.
Merci beaucoup, monsieur Jody.
Bien, on va accueillir Simon Moussengue de Lubumbashi. Bonjour, Simon.
Bonjour, monsieur Jody.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport aux inondations? Même à Lubumbashi, c'est actuellement vous connaissez ces genres de situations?
Effectivement, nous sommes pendant la saison pluviale ici à Lubumbashi.
Oui.
Si vous sillonnez la ville, je vous dis, c'est très compliqué. Les caniveaux qu'on a placé sur la ville, c'est inondé. C'est dit à quoi? Si vous passez à l'œil nu, vous verrez les bouteilles en plastique qui bouchent les caniveaux.
Oui.
Et parfois, les agents d'assainissement ne font pas leur travail régulièrement. Les femmes ménagères là qui jettent leur immondice dans des caniveaux et ça bouche tous les caniveaux de la ville. En dehors de cela, c'est aussi un problème de lotissement. Avec les Belges, lorsqu'ils avaient loti la ville, il y avait quand même les espaces verts. Mais avec nos autorités actuelles, là où on ne devait même pas construire des maisons d'habitation, il y en a.
Oui.
Sans tenir compte de la qualité du sol et du sous-sol, à ce moment-là, le lotissement-là n'est pas modernisé, les routes ne sont pas laissées, il n'y a même pas les espaces. C'est pour cela. Puis aussi, les bâtiments qu'on est en train d'ériger, tout ça, ça crée aussi des problèmes d'inondation.
Alors, qu'est-ce que vous proposez comme solution?
Allô?
Qu'est-ce que vous proposez comme solution, Simon?
Oui, oui. Comme solution, lorsqu'on est en train de lotir les quartiers, on doit d'abord tenir compte de la qualité du sol et des sous-sols. Est-ce que cet espace, les gens peuvent y habiter ou pas? De deux, les autorités au niveau de la mairie, les services là d'assainissement doivent faire son travail régulièrement, déboucher un peu les caniveaux et donner aussi les orientations à la population. Nous n'avons pas une bonne culture concernant la poubelle, l'usage de la poubelle.
D'accord. Hein?
Quelqu'un qui peut prendre les cyclones en cours de route, il jette la bouteille.
Il jette la bouteille au niveau du caniveau.
À côté.
D'accord. Merci d'avoir appelé Simon Moussengue de Lubumbashi. Jean Mangalibi, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, il faut un vaste programme de curage des caniveaux parce que les pluies vont continuer? Jean Mangalibi.
Allô?
Oui, Jean Mangalibi, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, je disais tout à l'heure, actuellement avec les pluies qui s'enchaînent, il faut penser curer les caniveaux, avoir un programme, mettre en place un programme permanent de curage des caniveaux.
Mais curer les caniveaux, c'est un souci. Mais en amont, il y a un autre souci.
Lequel?
On a lancé Kinbopeto. Tous ceux qu'ils avaient comme station de transit sont devenus des stations d'essence. Aujourd'hui, la population ne sait pas là où il doit aller jeter. La finalité, excusez-moi, je ne suis pas d'accord qu'on jette dans les caniveaux. Mais la population va aller jeter où?
Dans les poubelles.
Maintenant, hein? Non, il n'y a pas. Parce que la station là où l'État avait prévu, quand ils étaient encore avec l'Union européenne,
oui.
Le programme, par rapport au programme, je crois, paru, si j'ai encore bien de mémoire, ils avaient construit dans 9 communes. Or, qu'ils chassent à 24 communes. Aujourd'hui, on a réduit le nombre de communes. Même dans d'autres communes, on a réduit le nombre de stations de transfert. La finalité, la population, il met sa parcelle propre, il met devant la porte, le poussoufer prend. S'il ne jette pas dans les caniveaux, il va jeter dans la rivière. Le problème, c'est là. Il y a un autre grand souci qu'on va avoir. Quand vous prenez, par exemple, l'avenue des lycées Pointe de Liège, dans les temps, on avait entre la chaussée et les maisons, de l'autre côté où il y a Chaoumba et l'école technique, il y avait au moins plus de 30 mètres. Aujourd'hui, il n'en reste que, je crois, moins de 2 mètres. Qui donne ces autorisations-là? La même maladie, excusez-moi d'appeler ça maladie, on vit ça au niveau des poids lourds. On avait laissé une vingtaine de mètres. Aujourd'hui, les gens qui étaient là, ils ont empiété. C'est que moi, je n'ai jamais compris. Comment un pays qui est dirigé ou l'organisation ici au Congo est tellement bien faite. On a des chefs de communes, on a plutôt des chefs de rue, on a des chefs de quartier, on a des boucoumestres et puis on a le gouverneur. Mais comment se fait-il que tous ces gens-là qui empiètent, on ne les voit pas, on laisse faire pour dire que gérer les ordures, c'est un problème.
Oui.
Mais arriver à gérer déjà les biens qui existaient par rapport à sa viabilisation. Tu vois, par exemple, ici, là où il y a Essaou, l'Institut supérieur d'aménagement et de l'urbanisation.
Oui.
Juste à côté de cet institut, on vient diriger une station d'essence et tout le long de murs de clôture, c'est empiété.
Merci, oh, merci. Oui, merci, merci Jean Mangali. Merci beaucoup, on a pris beaucoup de temps.
Je
rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature. Merci d'avoir participé à cette émission. Excellente journée. On va clôturer avec l'urbaniste Fiston Ilangi. Fiston Ilangi, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous nos auditeurs.
Il pleut abondamment ces derniers temps, vous avez suivi à Banzangoung où il y a eu des pertes en vies humaines. Fiston Ilangi, est-ce que dans l'immédiat on peut dire que le curage des caniveaux est vraiment prioritaire pour prévenir les inondations?
Une très bonne question, merci beaucoup monsieur le journaliste. Mais avant de répondre à votre préoccupation, souffrez un peu que je puisse présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Alors, pour revenir à votre question, c'est bien, quand vous parlez des caniveaux qui rient ainsi de suite, mais on peut les curer là où il y a des caniveaux. Mais il y a des quartiers spontanés, vous trouvez tout un quartier dans un milieu urbain qui n'a pas de caniveaux. Alors, à ce stade, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, donc le problème est vraiment très complexe. Il y a dans des endroits où il y a des caniveaux, là nécessairement il faut passer au curage. Mais là où il n'y a pas de caniveaux, il faut automatiquement placer des caniveaux, viabiliser les sites. Et en outre, là où les caniveaux existaient depuis très longtemps, par exemple à l'époque belge, il faut redimensionner les caniveaux. C'est parce que la quantité d'eau qu'on évacuait avant 1960 n'est pas égale à la quantité d'eau qu'on doit évacuer maintenant. Et les caniveaux sont restés le même, avec le même dimensionnement. Donc voyez un peu ce système-là. Mais en dehors de ça aussi, donc, c'est comme je vous ai dit, le problème est trop complexe. Tout ça, c'est l'État. C'est parce que je trouve anormal, dans un pays comme la RDC, où il y a un ministère de l'urbanisme, il y a des gouvernements provinciaux de l'urbanisme, ainsi de suite, mais on ne sent pas nos villes, au sens noble du terme, fonctionner. Et chaque jour, on ne fait que compter des morts. Et la radio Capi n'hésite pas chaque année de faire des émissions pour sensibiliser les autorités, pour sensibiliser la population, mais rien ne marche, rien ne bouge. Je me dis, mec, on est où là, franchement? On est où là?
Il y a aussi un problème du côté de la population. Les gens jettent les immondices dans les caniveaux ou construisent sur les lits des rivières ou construisent sur les ouvrages d'assainissement. C'est un problème.
Bon, ben ça, c'est un signal fort. L'État congolais devrait capitaliser cela pour se dire non, eh ben, pourquoi ces gens jettent le déchet dans les caniveaux? Soit il y a un problème de culture écologique, sinon. Soit il y a un problème que ces équipements-là où on peut déverser le déchet n'existent pas. Chez moi, par exemple, là où je reste ici à Kinshasa, il n'y a pas de décharge là où je dois aller jeter les déchets. Vous imaginez, j'ai une culture là verte, j'ai la culture écologique, je me dis, je ne dois pas déverser les déchets dans les caniveaux, surtout que ces caniveaux aussi n'existent pas. Mais je marche des fois avec des déchets dans ma voiture pour chercher tout simplement un endroit approprié pour jeter les déchets. Je peux marcher avec ça pendant 10 km, même 20 km, je me promène avec les déchets. Donc comprenez déjà que même les équipements qui devrait accueillir ces déchets n'existent même plus, sont quasi inexistants.
Alors, ouais, ingénieur Fiston Ilangi, on peut dire qu'aujourd'hui il y a nécessité de, à part ce que vous venez de dire, il y a nécessité de redimensionner les ouvrages d'assainissement.
Il y a nécessité de redimensionner les ouvrages d'assainissement dans les quartiers anciens, là où ces équipements existaient en amont. Alors, dans d'autres places où il y en a pas, ça vaut la peine de placer ces caniveaux. Parce que c'est anormal en matière d'urbanisme d'occuper un site qui n'est pas viabilisé en amont. Ça ne se fait pas. J'ai suivi un intervenant parler de lotissement, ainsi de suite. Mon frère, à Kinshasa, par exemple, dans les villes de Kinshasa, de notre pays, les lotissements, au sens noble du terme, ne se font plus. Vous voyez, les lotissements, c'est une opération d'urbanisme. Quand on fait un lotissement, il y a des prescriptions urbanistiques qu'il faut respecter. Mais ce que le chef coutumier font ici, ce ne sont pas des lotissements, excusez-moi, je suis désolé.
Ingénieur Fiston.
Oui.
Malheureusement, on n'a plus assez de temps. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes urbaniste. Excellente journée.
Merci beaucoup.
Bien, nous allons suivre les informations et on se retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons parler des conditions pour censurer une œuvre musicale. Quelles sont les conditions pour censurer une œuvre musicale? Des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94.